commence à engager 700 personnes dans l'espace de comme 3 semaines. Quand tu parles d'agilité.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 63e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement près de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. J'ai la chance de recevoir une entrepreneure aujourd'hui envers qui je porte énormément de respect. Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de l'entreprise Cookit, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la croissance fulgurante de son entreprise qui se chiffre, tenez-vous bien, à 3860% d'augmentation dans les 5 dernières années. Cookit qui, selon un dernier sondage mené par Léger Marketing, figure parmi le top 5 des commerces en ligne québécois offrant la meilleure expérience utilisateur. Également, l'équipe de Judith a été capable de tripler son chiffre d'affaires année après année depuis 3 ans maintenant, atteignant 60 millions de dollars de revenus en 2020. La conversation est riche d'apprentissage, mais laissez-moi tout de même vous donner un petit aperçu des points discutés. On parle d'emblée de la genèse de l'entreprise qui s'est fait, comme beaucoup d'histoires entrepreneuriales, de manière impromptue. On parle ensuite d'achat d'entreprise, sachant que Cookit a fait l'acquisition en 2019 de l'organisation Miss Fresh. Et ensuite, Judith nous raconte les bienfaits d'avoir Alain Bouchard comme mentor et on termine la discussion en analysant l'avenir de la compagnie. Sans plus attendre, ma discussion avec Judith Fetzer. Judith Fetzer, tu es présidente et cofondatrice de l'entreprise Cookit, une organisation de prêt-à-cuisiner qui a connu une hyper-croissance fulgurante de 3860% au cours des 5 dernières années. Ton entreprise se place d'ailleurs à la 21e place des entreprises en plus forte croissance au Canada selon le site web canadianbusiness.com. Judith Fetzer, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ben, ça fait grand plaisir. Merci. Bonjour tout le monde.
Puis Judith, j'ai eu la chance dans la dernière année de recevoir sur le podcast plusieurs entrepreneurs qui nous expliquaient les différents pivots qu'ils avaient dû faire dans la dernière année afin de s'adapter à la pandémie. J'ai l'impression que de votre côté, la COVID-19 a davantage été synonyme de croissance accélérée. Mais avant qu'on discute de cette année particulière, est-ce que tu pourrais nous partager un peu aujourd'hui comment l'histoire de Cookit a commencé en 2014?
Oui, absolument. Ben en fait, moi, avant de me lancer en affaires, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie de l'hôtellerie, de la restauration. J'ai été GO au Club Med. Puis après ça, j'ai décidé d'aller faire mon... Quand j'ai vu la vie des gens riches et célèbres qui venaient au Club Med, je me suis dit, moi, c'est ce type-là de vie que je veux. Puis j'arrivais pas à comprendre comment deux personnes dans un couple pouvaient se payer des vacances à 5 000 $ la semaine par personne. Mais c'était ça que je voulais quand même. Fait que je suis revenue puis je me suis dit, bon, ben je vais aller à l'école parce que tous ces gens-là étaient éduqués. Et je suis allée faire mon bac en administration des affaires ressources humaines à l'UQAM, que j'ai vraiment trippé. Je suis travaillant dans la restauration pendant ce temps-là, puis après ça, j'étais à gauche, à droite. Je sais pas pourquoi j'étais vraiment tirée par l'entrepreneuriat. Ma mère, elle avait déjà eu un terrain de camping quand j'étais jeune, puis je l'avais vu opérer sa business. Mais ouais, fait que je suis devenue comme la personne j'étais la fille à qui on proposait des projets d'affaires. J'étais allée en Afrique faire de l'import-export pendant 6 mois. J'ai parti une boutique d'étalage dans Chabanel, qui était un peu e-com, social media aussi. Fait que c'est là que j'ai comme appris. Puis après ça, j'ai aidé à partir d'une entreprise e-com dans le domaine financier. Fait que tu sais, j'ai comme touché à plein d'affaires. Mais je me disais tout le temps, si c'était ma business, c'est pas comme ça que je le ferais. Si c'était ma business, c'est pas comme ça que je le ferais. Donc, à un moment donné, j'ai comme fait une incursion par le monde professionnel du travail. Là, je suis allée travailler chez Gaz Métro. Je suis tombée l'organisation, mais job horrible. Là. Je coupais le gaz à des gens. Et j'ai fait ça pendant comme 2 ans. C'était syndiqué. Je travaillais 4 jours par semaine. Je faisais 60 000 $ par année. La vie était belle. Mais j'étais limite suicidaire à tous les matins. Fait que je me suis dit there's got to be a better way là. Puis j'ai commencé à écrire des plans d'affaires, mais vraiment c'est comme j'ai pris un congé de ma job, j'ai commencé à écrire des plans d'affaires, j'en ai écrit, des fois ça pouvait aller comme à 3-4, là, j'étais limite en psychose, là, fallait que je crée quelque chose. Puis le 27e plan d'affaires que j'ai écrit, c'était celui de Cookit. J'ai une amie qui m'a parlé d'un concept similaire qui était pignon sur rue en Allemagne. Il n'y avait aucune compétition là à l'époque, là, en 2014, puis c'était en 2013, là. Toutes les compagnies qui font du e-com en alimentation, aucune de celles-là n'existe. De se faire livrer de la bouffe par la poste, ça n'existe pas, ni au Canada, ni aux États-Unis. Du moins, ça commence aux États-Unis, là, mais tu sais, même, tu trouves pas ça facilement, mettons, sur Internet. Et là, ben après plusieurs, j'y vais, ah non, je me lance pas, pourquoi moi je réussirais, c'est sûr que j'ai jamais rien fait de bon dans ma vie, pourquoi ça marcherait, c'est quand tu veux te lancer en affaires, là, c'est vraiment là que genre t'entends tout le négativisme des gens. Là, tout le monde veut te donner son opinion pourquoi ça marchera pas. Tu sais. Mes amis, ma famille. Mais il y a quelques personnes qui ont cru quand même. Mon chum fait partie de ces personnes-là. Je l'ai rencontré sur Tinder, deuxième date, du pitch Cookit. Il me dit, OK, c'est bon, j'embarque. Un an plus tard, Cookit est lancé. 2014, première entreprise de kit à cuisiner au Canada. Donc, innovation totale dans le marché, dans le secteur de l'alimentation, un secteur hyper traditionnel. Puis j'ai essayé depuis des années de se démarquer en alimentation, en commerce électronique. Ça pognait pas pantoute. Les Québécois n'étaient pas prêts encore à faire ce changement-là. Et puis, depuis ce temps-là, c'est un marché qui ne cesse d'augmenter. Les Québécois et les Canadiens dépensent quand même une bonne partie de leur portefeuille en alimentation, cherchent des solutions où ils vont bien manger, où ça va être simple de manger, puis de recevoir sa bouffe par la poste de manière automatique, c'est quand même assez simple. Là. Donc, fast forward 7 ans plus tard, ben c'est ça, Cookit s'est rendu une entreprise d'à peu près 650 employés, un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars annualisé, mais l'année prochaine, ça va être à 100 millions. Ça va vite?
Wow.
Même si ça va lentement.
Mais c'est ça, là. Vous êtes allé, le terme du podcast hypercroissance s'applique à 100% aujourd'hui. Puis parlons-en un petit peu de cette croissance-là, Judith. Je lisais certains articles que vous avez donnés, la presse, le Devoir. Puis cet article-là remonte au début janvier 2020, donc avant que le monde change totalement. Je pense que tu disais à ce moment-là, 2019 avait été bon, on a fait 10 millions de chiffres d'affaires en 2019, on est content, on vise 30 millions en 2020. Donc là, de ce que je viens de comprendre, vous avez pas fait 30, vous avez fait 60 millions en 2020. Peux-tu nous expliquer comment que cette croissance-là est arrivée? Bien entendu, il va y avoir des facteurs d'accélération comme la pandémie qui ont dû avoir un impact gigantesque, mais globalement, vous avez quand même, selon ce que je disais, triplé le chiffre d'affaires à chaque année depuis plusieurs années en ligne. Là. Il y a dû avoir certaines formules, certaines recettes que vous avez mis en marche pour atteindre cette croissance-là.
Oui, vraiment. Ben tu vois, tiens, comme tu dis, félicitations, t'as très bien fait tes recherches. On a triplé, souvent je dis des chiffres à gauche et à droite, là, donc c'est un peu difficile de t'y retrouver, mais t'as fait une très bonne analyse de la situation. On a triplé Cookit bon an mal an à chaque année. La première année, on a fait 98 000 de chiffre d'affaires. Le triplé, c'est un petit peu plus facile, mettons, tripler 30 millions. Tu sais. Mais tu vois, nous, on a lancé en 2014. Ça nous aura pris jusqu'en fin 2017 pour aller chercher du capital de risque. Donc, pendant ces 3-4 premières années-là, on a été très, très créatifs en e-com. Il n'y avait pas un growth hacker que je ne suivais pas sur Facebook, Instagram. J'étais abonnée à toutes les newsletters. Puis, on s'est vraiment focusé sur tout ce qui est le marketing, les stratégies evergreen. T'sais. Dès le début, on a eu... dès le début, là, quand j'ai lancé Cookit, t'sais, Facebook, ça marchait là, comme ça, pas de bon sens. Là. C'est pas toute la même game aujourd'hui. Là. Mais j'avais à peu près... Le site web n'était pas lancé. J'avais juste une page LaunchRock qui marchait, qui est comme une landing page pour recueillir des courriels, là, pour voir si tu lances un MVP, si ça va marcher. Puis, je pense qu'on est passé de 0 fan à comme 9000 fans en l'espace de 4 mois en dépensant moins de 200$, admettons. Là. Tu sais, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Là. Mais c'était super innovateur, Cookit. Tout ce qui était relations publiques, les journalistes, les médias, les blogueurs. T'sais, c'était vraiment une nouveauté qui arrivait sur le marché. Donc, très, très rapidement, on a eu une super de belle fenêtre de visibilité. Puis moi, c'est comme une de mes passion, là. Je trippe aller parler avec le monde, les journalistes, les blogueurs, faire des événements, ben moins c'est possible. Fait que très rapidement, on a vraiment focusé sur cette branche-là, qui en est une branche de marketing evergreen, d'entretenir, ça fait super longtemps qu'on a une relationniste de presse à l'interne, que je me fais amie avec les journalistes. Je sais, il n'y a pas comme un journaliste au Québec, je pense que j'ai pas son numéro de téléphone dans mes textos. Je me rends tout le temps disponible. Tu sais, je suis une fière défendresse de l'entrepreneuriat au féminin. Je trouve que ça nous a ouvert beaucoup de portes. On multiplie les apparences à la télé, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fait que ça, c'est une des parties de marketing evergreen qu'on a vraiment focusé. Après ça, en termes de e-com, on a développé notre propre plateforme in-house pour pouvoir, justement, tu sais, pouvoir faire ces techniques-là, là, tu sais, que tu vois dans des newsletters ou des trucs comme ça, tu sais. C'est con à dire, mais tu sais, mettons, pendant 3 ou 4 ans, on avait un pop-up qui récoltait les courriels, puis à force de l'optimiser, puis à un moment donné, tu sais, on a commencé à avoir de la croissance. Tu sais, je pense que la ligne sur comme 3 ou 4 ans est vraiment flat, puis à un moment donné, on lance comme le flying wheel, qu'on l'appelle, puis là, ça explose complètement, tu sais. C'est du automation, du email drip. J'ai tellement lu sur le sujet, puis après ça, mon équipe a tellement lu qu'on a compris, puis après ça, on a testé plein d'affaires. Fait que, tu sais, le fait d'être broke pendant vraiment longtemps nous a apporté ça. Puis ça fait en sorte que quand on a commencé à dépenser de l'argent, puis on s'est dit que c'est quand même rendu un gros budget marketing là, par mensuel, là, vraiment, vraiment. Là, mais quand on a commencé à faire plus de SEM, puis plus de marketing digital et tout, ben on avait déjà vraiment ce bassin-là là, qui récoltait. On avait un site web qui optimisait la conversion, on avait le newsletter. Puis je pense que des fois, si admettons tu commences avec comme trop de cash, mais tu sais, ça va quand même bien tes affaires, puis t'en as de la croissance. Tandis que nous, c'est une différence de 2 ou 3 clients par jour, ça faisait vraiment une différence. C'est sûr qu'on a perdu du temps comparé à certains compétiteurs, admettons, là. Puis je voudrais pas nommer ça, mais tout le monde va comprendre. Mais d'un autre côté, ça fait en sorte que, tu sais, notre coût d'acquisition était des années-lumière que ces compétiteurs, parce que, justement, on a développé toute cette expertise-là. Puis après ça, on a réussi à développer un genre de powerhouse là, de marketing avec notre réseau d'influenceurs, notre programme affiliate, qui est probablement un des meilleurs programmes affiliates au Québec. Puis la bouffe, ça touche les gens, là. Les gens en parlent, ils en cuisinent. Tu sais, mettons, un client coquette va recevoir sa boîte, il va avoir commandé son menu, il va avoir réfléchi à ce qu'il veut manger, il va unboxer sa boîte, il va cuisiner, il va manger. Tu sais, les gens, ils passent comme 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures avec notre brand par semaine. T'sais, ça a vraiment de l'impact dans une vie, là. Puis après ça, c'est ça. Puis après ça, il y a le côté plus business, tout ce qui est de lancer des nouvelles lignes d'affaires, lancer des nouveaux produits, lancer des nouvelles usines, faire des acquisitions. Fait que on est très dynamique.
Ben, je vois ça. Je vois ça. Puis c'est tout à votre honneur. Puis je le disais un petit peu en intro, Judith, il y a des organisations cette année qui, malheureusement, ça a été purement de la malchance. Ils ont été obligés d'être mis à off. On pense beaucoup au secteur événementiel, au secteur culturel.
Ouais.
Vous, de votre côté, bon, on comprend que les restos sont fermés. À un certain point, les gens se font davantage livrer. Donc, clairement, ça a dû être un facteur d'accélération. J'ai lu quelques articles. Je pense qu'à un certain point, à un moment donné, il y a des entreprises qui ont pivoté pour se réinventer. Mais vous, ça allait tellement vite que vous avez dû, à un certain point, vous réinventer également parce que là, vous aviez, je lisais certains chiffres, une croissance de 25% de plus d'une semaine à l'autre. Là, on parle pas d'un mois à l'autre, mais d'une semaine à l'autre, ce qui est énorme quand on arrive à des volumes de transactions comme vous le faites. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu as vécu ça ces derniers mois-là? Maintenant, bon, on enregistre le podcast, janvier 2021, on a un petit peu plus d'expérience sur ce qui se passe avec un confinement, mais tout de même, tu dois continuer à faire des apprentissages au jour le jour à travers ça, là.
Ben vraiment. C'est pour moi, l'année 2020 vraiment. 2019, admettons, ou 2019 à aujourd'hui, ça a vraiment été la période où moi personnellement j'ai plus eu de croissance. En août 2019, mon chum qui m'a aidé à fonder Cookit est revenu dans l'entreprise avec moi. Et à ce moment-là, tu sais, comme 3-4 mois après, on a acheté Miss Fresh, qui a été une transaction qui a été lidée par Pat, mais c'est acheter une entreprise à Metro, c'est quand même un mastodonte, là. Puis après ça, on débarque dans une usine le 9 décembre 2019, on se présente à une gang de, il y avait comme 300-400 employés, salut, c'est nous autres, vos nouveaux boss, il n'y a personne qui s'en attendait. Après ça, tu rentres sur le plan d'intégration, Nous, on était dans une autre usine qui était à Saint-Michel. On déménage toutes nos opérations là-bas. Discontinuer le brand Miss Fresh. Se faire amis, se faire respecter. Que les gens qui sont les anciens employés de Miss Fresh qui sont rendus avec nous apprennent à nous faire confiance. C'est une grosse partie, ça, tu sais. Genre, tu changes de boss du jour au lendemain, là. T'es comme, wow, là, tu sais. T'étais bien confortable dans tes pantoufles, là. Puis là, il y a une nouvelle cinglée, là, qui veut te dire comment tu vas gérer la business. Là, tu sais, ça change beaucoup dans tes habitudes. Fait que ça tu sais, comme janvier à mars, tu sais, mettons, quand je t'ai dit qu'on avait fait le plan d'intégration 100 jours, là, à partir du 1er janvier, là, ça arrive le 10 mars. Fait qu'on a fini à peu près à ce temps-là. Moi, j'ai vraiment été chanceuse parce que la première semaine de mars, je me suis dit, moi, je sac mon camp, je suis partie faire une retraite de yoga et de surf, moi tout seul, pas d'enfant, pas de chum, pour comme me ressourcer puis faire ma liste à l'univers. Puis je reviens le 10 mars, puis le 13 mars, paf, la COVID éclate. Puis mon Dieu, je l'avais pas vu venir. Là, même le 10 mars, j'étais dans l'avion, puis pour moi, ça existait toujours pas, là, la COVID. Et là, finalement, on commence à voir les taux de croissance. Tu sais, on a comme 3, 4, 5, 6 fois plus de nouveaux clients par jour. Puis on a une boîte à peu près 100-200 nouveaux clients par jour à ce moment-là. Là. Fait que, tu sais, là, c'est, ça se compte en termes de milliers. Tout ferme. Les Québécois ont peur. Puis ramenons-nous au mois de mars. Là, tu sais, maintenant, on a comme moins peur. En tout cas, moi, j'ai plus vraiment peur de sortir de chez nous. Là. C'est sûr que je vais pas licher le monde dans le face. Là, mais tu sais, à l'époque, au mois de mars, j'ai peur de sortir de chez nous. Là. Fait que là, tout le monde se ramasse en télétravail, à l'usine. T'sais, nous autres, on vient de vivre ce changement-là. On a plein de femmes célibataires qui font partie de notre clientèle d'employés. Fait que c'est le bordel. On se ramasse à engager 600 personnes, 700 personnes dans l'espace de comme 3 semaines. Quand tu parles d'agilité, là, hey, on a comme le monde de l'événementiel, là, comme ça crée le camp du jour au lendemain. Puis nous autres, on avait plein d'amis qui étaient dans l'événementiel. Fait que là, on leur a écrit des scripts. Puis là, tu sais, on s'est servi comme de nos connaissances en e-commerce pour répliquer dans les RH. Puis ça, c'était vraiment le fun. Bon, moi, je trouvais ça vraiment le fun. Moi, je suis un peu bien raide. Puis, fait que là, mettons, on allait sortir, on multipliait les offres d'emploi sur toutes les plateformes, on téléchargeait ça dans des CSV, on mettait ça dans un genre de mail merge, je sais pas si c'est quoi, mais c'est comme une application sur Google Drive que tu peux envoyer des messages genre « Salut Antoine », puis genre chaque personne en reçoit un à son nom, là. Puis là, on bookait sur Calendly des rendez-vous, tu sais, comme je te dis, là, tu sais, quand je te dis qu'on servait de nos connaissances de e-com, puis là, tout notre monde qui travaillait en événementiel, il y avait leur canevas d'entrevue. Fait que là, on avait comme 400 appels à peu près par jour. Fait qu'on était capable d'embaucher 50-75 nouvelles personnes par jour. Là, il arrivait à l'usine. Là, t'es habitué d'en former un ou deux par jour. C'est pas 50. Là, OK, formation. Mais là, à un moment donné, t'sais, au bout de 2 semaines, c'était comme 90% de la main-d'œuvre. C'était des gens nouveaux. Puis là, on paierait les anciens, ceux qui avaient 10 jours d'expérience, avec les nouveaux, ceux qui avaient une journée d'expérience. En tout cas, c'était irréel. Là. En plus, là, bon, là, tout le monde a peur. Là, qui a acheté des masques, mettez des masques et visières. Ben oui, ça, cherche-les, les masques et visières, tu trouves ça où, tu sais. Il n'y a même pas les hôpitaux qui en ont encore. Fait que là, j'ai du monde à l'usine qui font le tour des doloramas pour aller chercher comme des acétates, là, pour pouvoir faire des visières qui accrochaient avec des élastiques. En tout cas, c'est bordel. Mais chose certaine, nous, on venait de vivre une grosse période de transformation dans Cookit, puis c'est comme la colle était pas faite encore entre l'équipe de Miss Fresh puis l'équipe de Cookit. C'était encore comme 2 équipes, mais tu sais, qui commençaient à s'apprivoiser, mais quand même, il y avait quand même quelques frustrations dans le processus. Là, ça a vraiment servi, là, tu sais, c'était plus 2 équipes, là, c'était vraiment 1 équipe. Tout le monde est parti au front. En tout cas, j'habite sur le plateau, là, puis à côté de chez nous, il y a comme un gros stationnement de pièces populaires qui ont fermé. Puis nous, on aimait bien aller à Air Commune l'été pour aller faire nos 5 à 7, qui est dans le Mile End. Puis là, on s'est même fait un... Genre, on avait... J'utilisais mes chaises de camping. Puis là, avec ma voisine, on mesurait comme 2 mètres. Puis là, on installait des chaises de camping partout dans le stationnement. Puis là, on se faisait des 5 à 7 à 2 mètres de distance. Puis le monde, il n'avait pas le droit de bouger leur chaise, mais juste comme pour décompresser après la journée, parce que ça avait tellement été comme épouvantable. En tout cas, c'est ce que je m'en souviens pour toute ma vie.
Oh my God! Puis là, on est plusieurs mois plus tard maintenant. Est-ce que on a été capable de mettre un petit peu plus de colle autour de ça? Est-ce que les opérations, c'est un petit peu plus vivable à gérer aujourd'hui, les embauches, les nouvelles personnes qu'on doit former? À quoi que ça ressemble maintenant?
Mais vraiment, tu sais, Mettons, je te dirais, jusqu'à il y a 18 mois, on était encore une petite business. Tu sais, on était, je veux pas dire on était 4-5, je pense qu'on était rendu 90 à ce moment-là, là, mais tu sais, les décisions, ça se tournait sur le coin de la table. Il n'y avait pas vraiment de gouvernance, de processus. Tu sais, on faisait un peu les choses à l'arrache. Enfin, on était bien confortable là-dedans. Là, tu sais, don't get me wrong. Moi, j'aimais ça un peu, ma petite business à l'arrache. Il y a vraiment une différence entre gérer une business de 100 personnes puis gérer une business de 700 personnes. La business de 100 personnes, c'est pas comme ultra organisé. Ça marche quand même, tu sais. Puis t'es un petit peu moins ambitieux aussi dans tes projets. Il y a moins d'argent qui est en jeu. Il y a moins de trucs qui sont en jeu. Puis que, tu sais, les projets, il me semble que ça se pilote comme bien. Tu sais, mois de mars, avril, mai, juin, on a vraiment beaucoup focusé sur les opérations pour scaler la production, scaler les opérations, faire en sorte que ça pète pas. Mais tu sais, évidemment, comme tu le dis, tu sais, le taux d'erreur était dans le tapis, là. Tu sais, on est monté à 10-11% d'erreurs par boîte durant cette période-là. C'est fou à quel point les gens ont été, tu sais, les gens étaient full empathiques, là. Nos clients, ils nous écrivaient, là, puis ils étaient comme là, je sais pas, on le sait que ça doit être compliqué. Merci, vous nous sauvez la vie. C'était comme fou le nombre de témoignages qu'on avait là, de nos clients. Fait qu'on a quand même été chanceux parce qu'on a bien vécu ça, même si on n'avait pas le service habituel, tu sais. Puis après ça, l'été, ben, tu sais, on a passé à travers comme ces mois-là qui venaient de nous rentrer dedans, là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, j'ai comme dit à ma gang, là, tu sais, genre, on travaille, là, mais mettons, là, on prend ça vraiment relax, là. Tu sais, c'est comme aller en camping, des fêtes de 3-4 jours, let's go, puis genre, tu peux être sûr que je les cherchais pas au bureau, là. En tout cas, moi, j'étais pas au bureau, fait que je pouvais pas les chercher. Puis après ça, vraiment, en septembre, là, tu sais, comme, mettons, on n'avait pas scalé l'équipe marketing, on n'avait pas scalé l'équipe cuisine, on n'avait pas, toutes les fonctions qui sont pas comme variables, tu sais, mettons, si tu lises X nombre de boîtes, il faut que tu aies X nombre d'employés. Toutes ces fonctions-là, c'est là qu'on a commencé à les scaler. Puis pour la première fois de notre vie, on a fait un exercice de planification stratégique sur 3 ans, finalement, on l'a fait sur 2 ans. Puis 3 ans, c'est un petit peu trop long pour nous autres. Puis on a passé comme 3-4 mois avec mon comité de direction à faire ça. Puis à, c'est vraiment. Tu sais, nous autres, on voulait tout faire. Tu sais, tout en marketing, on voulait tout le faire. On voulait avoir une sphère. On voulait faire pousser nos propres tomates, avoir notre compagnie de distribution. Tu sais, c'était comme les projets. Tu sais, moi, puis mon comité de direction, on est comme la moitié du comité de direction qui est super ADHD. Fait qu'on disait tout le temps qu'on était, que Cookit elle-même était un peu ADHD. Parce qu'on veut tout faire. Tout. Mais d'un autre côté, comme on réussissait pas à planifier les affaires, puis on disait, on va tout faire. Mais ça a été quand même une année en termes de projet qui a été frustrante parce que on réussissait pas comme à budgéter les bonnes affaires, budgéter les bonnes ressources. Tu sais, c'était comme, tu sais, tu peux pas rester dans le monde startup vitam aeternam, là, à un moment donné. Puis même au niveau de l'entrepreneur, il y a une certaine fatigue qui s'accumule que, tu sais, au début, tu peux faire 800 affaires en même temps. Tu peux gérer les médias sociaux, faire le service à la clientèle, faire la boîte, faire la livraison, genre, it's good. Mais à un moment donné, genre, ça tient plus la route, ce modèle-là. Fait que ça, c'est vraiment de repenser la business. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'année où j'ai eu, moi, le plus de croissance personnelle parce que je suis partie d'une entrepreneur un peu tout croche pour commencer réellement, je trouve, à être une vraie femme d'affaires organisée, tu sais, qui est capable de rallier. En tout cas, ben excitant.
Je comprends très bien. Ben c'est assez fascinant, cette histoire-là. Puis, j'en doute pas que ça a dû être assez rock'n'roll de votre côté. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, à commercial, J, le chiffre 7, média au singulier, et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. De mentionner une chose, Judith, comité de direction. OK, ouais. Comité de direction. Moi, j'ai été capable de voir que, et corrige-moi si je me trompe, je crois que tu as fait partie de la cohorte Adopt Inc. en 2016. Et ben, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Adopt Inc., c'est un projet qui avait été lancé, initié par Nicolas Duvernois et Anne Marca, pour aider des jeunes entrepreneurs à être épaulés dans leur croissance d'organisation. Tu as été choisi là-dedans et tu as eu la chance d'avoir comme mentor Alain Bouchard. Donc, Alain Bouchard, qui est le fondateur de Couchetard, a été ton mentor désigné. Moi, j'aimerais savoir, dans une période d'hypercroissance comme tu viens d'avoir, là, à quel point d'avoir un Alain Bouchard que tu peux, j'imagine, contacter, ça aide et ça te donne des idées que tu n'aurais pas nécessairement passées pour arriver et amener l'organisation à un autre niveau?
Ben, tu sais, en fait, j'ai comme l'impression que la période d'hypercroissance, elle commence un peu après ça. Parce que, tu sais, j'ai été adoptée par Monsieur Bouchard là, au mois d'octobre 2016. Le lendemain, j'ai mon compétiteur, littéralement le lendemain, je n'ai même pas le lendemain, j'ai un de mes compétiteurs qui avait anciennement cuistot, qui m'a appelé pour prendre un café. L'histoire dit pas s'il l'avait appris, là, je pense que oui, parce que ça venait sortir dans le journal le matin même. Puis après ça, c'était comme cette rencontre-là a fait en sorte que 6 mois plus tard, on achetait notre premier compétiteur qui était cuistot. Ça, c'était comme 50% de plus de chiffre d'affaires. C'était une petite acquisition, là, c'était rien du tout. Sauf que c'était quand même, t'sais, je peux pas dire qu'il m'a dit, hey, là, faut que tu l'achètes, puis let's go. Mais, tu sais, c'est comme un peu un papa, là, tu sais, tu veux comme il plaire aussi, là. Fait que, puis pour moi, d'avoir été adoptée par M. Bouchard aussi, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Je t'ai expliqué un peu mon parcours avant de lancer Cookit. Je peux pas dire que j'étais une femme d'affaires accomplie, qui avait un réseau d'affaires de fou, qui avait comme une super de grosse crédibilité. Je sais pas si c'est la perception que moi j'avais de moi-même qui faisait en sorte que je me barrais comme moi-même des portes parce que j'osais pas les cogner. Chose qui est comme pas vraiment moi. Mais, admettons, tu sais, dans le monde de financement puis capital de risque puis tout. Tu sais, au début, là, quand je faisais des rencontres avec mon chum, tu peux même pas savoir le nombre de rencontres que j'ai eues ou ce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, mon chum, c'est un acteur. C'est lui qui s'occupe des finances de Cookit depuis toujours, là. Évidemment, il y a plus de crédibilité que moi, genre, qui veut parler de marketing puis des affaires comme ça quand on parle en termes de finances. Mais tu peux même pas savoir dans combien de meetings que j'ai été ou ce que je me suis fait sweet focal regarder, hein, tu sais, c'était à peine comme si j'existais, là, tu sais, limite, je me sentais comme si j'étais l'adjointe de M. Patrick Chamberlain, tu sais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui était comme ultra généralisé chez les femmes entrepreneurs. Je vois qu'il y a un autre homme dans la pièce, même quand j'étais avec mon associé Paul, tu sais, on se déplaçait dans des meetings, même dans des grosses institutions québécoises, il y avait quand même, tu sais, ce truc où ce que, genre, tu tournais plus facilement vers les hommes. Fait que, comme je te dis, tu sais, il doit y avoir un biais de mon côté, mais il y en avait aussi un de l'externe aussi qui venait. Puis j'ai quand même l'impression que ça a changé un peu pas mal cette journée-là, tu sais, de pouvoir dire qu'il était backé par Mathieu Alain Bouchard, ça t'apporte une certaine crédibilité. Tu peux être sûr que je le name drop comme quand j'ai besoin, là, puis je le name drop au besoin. puis tu sais, comme les gens, ils font comme ah, ok, ouais, non, c'est vrai, t'sais, puis d'avoir des intros, c'était plus facile, puis fait que, tu sais, pour moi, ça a été un événement qui a changé ma vie. C'était la première cohorte d'adopting. Tu sais, Nick, je le connaissais pas vraiment à l'époque, ben on suivait mutuellement sur les réseaux sociaux, on avait, il y a comme 3-4 ans de plus d'entrepreneuriat que moi, mettons, mais on s'est quand même pas, tu sais, on n'est pas si loin que ça quand même dans notre carrière entrepreneuriale. Puis quand j'ai vu les mentors, moi, j'étais comme, je me suis Bouchard, je pense que tu disais genre 3 fois par jour, tu sais, puis moi, je suis vraiment une femme du secret, là. T'allais à l'univers, puis imagine que ça va arriver, puis tout. Fait que, ouais, ça a changé ma vie, puis tu sais, maintenant, M. Bouchard, ben, c'est quelqu'un avec qui j'ai conversation par mes temps, je texte. Même là, il y a 2 mois, il m'a dit que j'étais plus obligée de l'appeler M. Bouchard, que je pouvais l'appeler Alain. Bon, je le fais pas encore, wow. Là, parce que ça fait comme 4 ans que je l'appelle M. Bouchard, là, mais même à ça, fait que, ouais, ça a vraiment changé ma vie, puis ça a ouvert plein de belles portes chez Cookit, puis c'est vraiment un allié formidable. Et, tu sais, moi, là, des mentors, là, je peux pas dire que j'aime bien ça, tu sais, comme, je pense que je suis un petit peu trop, je vais pas dire rebelle, là, mais, ouais, je vais dire rebelle, là, mettons. Fait que, j'avais tout le temps l'impression que mes mentors, ils comprenaient pas assez vite, pis que, ils s'y connaissaient pas assez. Pis, mettons, je me tournais naturellement vers des gens, genre, Raph Paquin, Monsieur E-commerce, David, tu sais, pis des trucs comme ça. Pis là, je posais mes questions, pis ceux-là, tu sais, je leur faisais vraiment confiance. Mais, tu sais, quand on me matchait avec un mentor, là, j'étais souvent comme, oh mon Dieu, ça va être pénible, va falloir que, tu sais, j'ai déjà été obligée d'expliquer à un mentor, c'était quoi Google Analytics, là, j'étais comme, fucking kill me. Puis M. Bouchard, la première rencontre que j'ai eue avec lui, là, j'avais vraiment peur parce que je l'estimais énormément. Je venais de finir la lecture de son livre. J'avais vraiment peur que le mythe soit bêtisé, tu sais. Puis à ma première rencontre avec lui, j'ai compris pourquoi c'était un homme d'affaires comme ça. Il comprenait des affaires dans e-com, puis en business model, puis limite, il comprenait des concepts qui s'appliquaient à mon industrie, limite mieux que moi. Puis il y avait une vision externe d'un homme d'affaires aguerri. Puis à un moment donné, je faisais, avant la COVID, je faisais bien des 5 à 7 d'entrepreneurs. Là, c'est comme ça que je réussis à... J'étais un peu paresseuse. Là, fait qu'au lieu de faire 45 à 7 par mois, j'en faisais un à tous les 3 mois, que j'invitais tout le monde, puis tout le monde venait à moi. C'était vraiment génial. Ça, c'était hacker le 5 à 7. Genre, comment scaler un 5 à 7 et ton réseau. Puis, à un moment donné, je m'en vais chez Couche-Tard, au siège social. Ils veulent pas appeler ça un siège social, mais whatever, là, à Laval. Puis en sortant, je dis « Ah, ben c'est le fun, maintenant j'organise un party d'entrepreneurs au bureau de Cookit. » Mais tu sais, parce que j'avais prévu, c'était genre 30 entrepreneurs, ben relax, on avait commandé de la pizza, boire de la bière, genre, puis j'ai dit business. Puis elle me dit « Hey, ben je vais venir, pour moi. » Je suis sortie de son bureau, j'ai appelé ma directrice marketing, Laurence, puis j'étais comme « Ok, Laurence, on a un party organisé. » Genre, il était 2h de l'après-midi. Le 5 à 7 a commencé à 5 heures. On avait un mime. On avait, genre, en tout cas, il y avait un photographe, un buffet de sushi, un mixologue. Wow. On avait loué des jeux, genre Jenga, puis Connect 4 GA. On avait fait un espace, genre, de réalité virtuelle. Puis, comme si Bouchard est arrivé, il était comme, oh, wow, mon Dieu, c'est vraiment d'envergure, vos 5 à 7. Ouais, ouais, c'est ça, cet après-midi, ça ressemblait pas à ça. Puis, sais-tu quoi? Le mime, OK? Le mime, je l'avais trouvé sur Genie, un peu à l'arrache, OK? Le mime, OK? Genre, c'est l'anecdote la plus drôle de ce parti-là. Le mime, genre, il a fait comme... Il était vraiment dans son rôle pendant une demi-heure, mais après ça, il a commencé à réseauter avec le monde, OK? C'est un mime. Puis, il mangeait au buffet, puis j'étais comme, mais pourquoi je te paye, dude? Je l'ai comme payé pour 2 heures, puis pendant 1 heure et demie, il réseautait et il mangeait avec les gens. En tout cas, mais M. Bouchard est venu, puis c'était tellement impressionnant parce qu'il a fait le tour comme de mes 30, 50 amis entrepreneurs finalement, puis évidemment, on a upé la guest list aussi, puis on s'est comme mis à inviter tout le monde qu'on connaissait dans l'entrepreneuriat cette journée-là. Puis crois-moi que quand tu dis que M. Bouchard est là, genre les entrepreneurs, ils se déplacent, puis s'il y avait quelque chose de prévu, genre ça saute. Puis M. Bouchard, il a fait le tour de tout le monde. Il a posé, tu sais, il posait comme 4, 5, 6 questions sur la business à tout le monde. Tu sais, tellement, genre, attentionné, fin, bienveillant. En tout cas, voilà.
C'est la figure emblématique de l'entrepreneuriat au Québec, Alain Bouchard. Là. C'est le succès à un point tel de résonner à l'international. On voyait récemment dans les journaux il voulait même partir peut-être à l'attaque un peu en France avec Carrefour. Tu sais, c'est là que tu vois, c'est la fierté québécoise, c'est de se dire, on est capable au Québec de rayonner partout dans le monde, puis il faut juste avoir l'ambition de le faire.
Ben oui. Monsieur Bouchard, là, tu sais, depuis 10 ans, là, depuis 5-6 ans, là, OK, c'est vraiment une figure emblématique. Mais il y a 15 ans, et puis c'est vraiment pas il y a si longtemps que ça, OK, il y a 15 ans, il me le raconte souvent, OK. Lui, il se déplaçait dans des 5 à 7 entrepreneuriales, puis des trucs comme ça, là, puis il a toujours aimé ça, OK? Sauf que là, il faisait du réseautage avec les gens, OK? Puis les gens, ils demandaient, « Ah, puis vous faites quoi? » »« Ah, ben moi, j'ai des dépanneurs. » Puis il dit, c'était incroyable. Il dit, les gens se retournaient de bord puis ils sacraient leur camp. Il dit, j'avais tellement de la misère à me bâtir en réseau parce que tout le monde pensait que j'étais genre, « Ah, cool, genre bravo avec ton dépanneur, genre comme, sac-moi à paix. » Puis il est allé faire un MBA au HEC juste parce que il trouvait qu'il n'y avait pas assez de crédibilité. Puis c'est pas il y a 40 ans, là. C'est genre, il n'y a même pas 15 ans de ça qu'il a écrit ça, ça s'est passé. C'est quand même fou, hein. En tout cas, je crois que c'était cocasse comme
anecdote. Ben oui, c'est une anecdote très intéressante à savoir. Puis je te pose une question parce que là, tu l'as mentionné quelques fois, puis c'est très, très propice aux techniques de croissance de Couche-Tard, de faire une croissance par acquisition. On le voit même récemment, ils ont essayé de faire une nouvelle initiative. Toi, de ton côté, ce que je voyais, puis corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est le 9 décembre 2019 que vous avez fait l'acquisition de Miss Fresh. Mm-hmm. De ce que je comprends un petit peu dans l'acquisition, c'est que l'opération était davantage reliée à un entrepôt de production qui vous intéressait. Je pense que c'était comme ça que l'acquisition a été faite. Tu as parlé également que vous aviez fait l'acquisition de Cuisto. Comment tu vois ça, toi, acquérir d'autres organisations dans votre stratégie de croissance? Est-ce que c'est une manière, une technique que vous allez continuer à faire dans le futur?
Bien, juste une petite précision. Pour Miss Fresh, c'était pour plusieurs facteurs. Oui, on avait outgrowé notre usine à Saint-Michel, puis on cherchait une place pour déménager. Mais d'un autre côté, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'acheter une autre entreprise qui fait doubler ta taille quand même, là, ce n'est pas rien. et ramasser plein d'employés qui sont déjà qualifiés, apprendre diverses techniques. Tu sais, dans le sens que, mettons, Cookit avait beaucoup investi en marketing et en mettons, site web, tu sais, tout ce qui était comme plus beau, mettons, mais ce qui était behind the scene, ça manquait d'investissement un peu, là. Ça manquait d'envergure, tu sais. On n'avait pas vraiment de technologie, on utilisait encore beaucoup Excel, on n'avait pas, tu sais, on avait une petite usine de 10 000 pieds carrés, tu sais, il manquait un peu d'investissement. Donc, eux apportaient vraiment ça, parce que eux, ça avait été un bout de leur focus. Fait que ça nous a vraiment permis d'apprendre une tonne de choses, parce qu'on faisait la même chose, mais on le faisait de manière complètement différente. Ça, c'est quand même, en tout cas, moi, je trouvais ça fou. À chaque petite affaire, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais d'un autre côté, faire une acquisition, c'est aussi beaucoup de travail. Tu sais, quand on parlait du comité de direction, tantôt, on était une petite équipe de 5 personnes. Miss Fresh, là, ça a été le focus de l'équipe pendant, mais de toute l'équipe au grand complet de Cookit pendant genre 7-8 mois quasiment, là, de l'aide. C'est de la première conversation qu'on a avec Métro jusqu'à temps qu'on peut dire comme mission accomplie, guys, finish, on est done. On a bien réussi l'intégration puis tout, là, tu sais, c'est 8-9 mois de travail. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires aussi qu'on a appris là-dedans, là, qu'on aurait pu être meilleur, l'évaluation puis tout. Il y a des affaires qu'on avait vraiment overestimated. Fait que, tu sais, c'est effectivement quelque chose qui nous intéresse. Mais comme je te dis, on avait plus, là, on est en train de préparer l'ouverture d'une usine de prêt-à-manger pour diversifier notre gamme de services. On a regardé, voir s'il y avait quelque chose qui était intéressant sur le marché. Mais bon, la situation, la pandémie a fait en sorte que même si ça, pour tout le monde qui faisait de la bouffe en ligne, mettons, même si les affaires n'allaient pas super bien avant la pandémie, depuis la pandémie, il y a eu une belle explosion de tes ventes, donc une belle explosion de ta valuation aussi. C'est pas nécessairement le bon temps pour acheter, mettons, là. Mais c'est mettons pour Miss Fresh, on s'entend qu'on vouloir avoir choisi un meilleur timing que ça pour faire l'acquisition, c'est pas possible, tu sais. C'est quelque chose qu'on reste à l'affût. On parle toujours avec ben du monde, mais il n'y a pas d'opportunité qu'on est en train de regarder présentement. Là. Mais c'est sûr et certain que ça reste top of mind. Puis, peut-être pour aller pénétrer d'autres marchés ou des trucs comme ça, parce que justement, t'sais avec Miss Fresh, là, la base de courriel, de données, de juste de cookies qu'on a pu aller chercher, c'est vraiment... on le voit que ça marche, là, qu'on est capable de convertir par après, puis que fait, c'est quelque chose de super intéressant pareil.
Intéressant. Je parlerai un petit peu de financement avec toi. Tu as mentionné en 2017, c'est là que vous êtes allé chercher votre capital de risque pour la première fois. Mm-hmm. Par la suite, il y a eu quelques autres moments où est-ce que vous êtes allé lever un petit peu d'argent. Là, vous êtes passé en croissance accélérée à un point tel cette année. À quoi ressemble un petit peu l'avenir de ce côté-là? Est-ce que vous pensez peut-être aller faire d'autres rondes dans les prochains mois, dans la prochaine année pour peut-être pénétrer davantage le marché canadien, aller chercher d'autres parts de marché peut-être dans des verticales différentes? Comment ça se déroule un petit peu là, ces réflexions-là de votre côté?
Le Meals Kit a la réputation d'être très money consuming. C'est des nouveaux marchés qu'on ouvre, c'est des changements de consommateurs qu'on. Tu sais, moi je le dis souvent, mais c'est aussi là. Convertir un client de Meals Kit il y a 6 ans, c'était vraiment plus dur que convertir un client aujourd'hui. Là, maintenant, c'était très early adopters il y a 6 ans, puis là maintenant on est rendu plus dans un marché de masse. T'sais, les gens veulent se tourner massivement vers des solutions comme ça. Donc, après ça, c'est sûr que ça devient un peu aussi une guerre de financement qui va investir le plus en marketing. T'sais, c'est pas un winner's take all market comme genre la Facebook ou tout ce que ça prend genre tout le monde ou personne. T'sais, on est 4 entreprises canadiennes qui se séparent la taille du marché. C'est très peu de compétition quand même. Il n'y a pas beaucoup de barrières.
Le marché n'est pas consolidé.
Ben, comparé, mettons, à il y a 3-4 ans, il y avait peut-être 8-9 entreprises, il y a eu 2. Miss Fresh a été une acquisition majeure dans ce secteur-là. Chef's Plate, qui a été acheté par Low Fresh aussi. Fait qu'il commence à y avoir une certaine consolidation. Donc, tu sais, moi, je viens tout le temps, là, toutes les fois qu'on en a closé 3 rounds de financement pour l'instant, on est en train d'en closer une 4e. Tu sais, du moment que tu closes une ronde de financement, tu peux prendre comme une semaine de congé, puis après ça, tu recommences déjà à préparer un autre pitch deck. C'est moi qui l'ai fait pendant vraiment longtemps, puis depuis que Pat est revenu, c'est vraiment lui qui a pris le lead, puis mon Dieu que je suis vraiment heureuse, puisque j'étais vraiment pas heureuse dans ça. Pour moi, c'était vraiment, j'étais vraiment pas un poisson dans l'eau, puis ouais, c'était pas naturel, mettons, pour moi. Faire les pitchs, j'en dis avec les investisseurs, sure, mais tu sais, faire du cold calling, puis des trucs comme ça, là, ça me rendait bien, bien inconfortable. fait que ça avançait pas bien vite. Maintenant, ça c'est vraiment comme accéléré, on commence à avoir de meilleurs partenaires, puis tu sais, je pense qu'on apporte vraiment une approche très, très unique au Meal Kit, qui fait en sorte que nos KPIs sont vraiment des années-lumière de tous les compétiteurs sur la planète. Nos clients sont super loyaux. Fait que, comme je te disais tantôt, on a des coûts d'acquisition qui sont pas chers, puis on a de la super de bonne récurrence. C'est ce qui est fait dans un subscription box aussi. Là.
Ben oui, c'est ça.
Fait que, tu sais, on a beaucoup moins de pression sur les épaules parce que là, maintenant, on est rendu une entreprise qui est profitable. Mais justement, tu sais, on veut conquérir d'autres marchés. On veut solidifier notre présence au Québec. Mais je pense que on peut rattraper les autres compétiteurs. On est vraiment plus loin derrière. T'sais, pendant un bout, on pensait vraiment que c'était inatteignable. Dans les 2-3 dernières années, tu sais, nous, on a fait un pari là, qui est de vraiment focusser sur l'expérience client. Puis les résultats le prouvent. Là. La semaine passée, on a été nommé, on était dans le top 5 des entreprises. Mais ça, c'est fou, là. C'est devant Amazon, devant Nespresso, pour les auditeurs, pour ceux qui écoutent, on a été nommé la 5e meilleure entreprise en e-commerce par le palmarès Léger Marketing, qui est une institution très, très solide au Québec. Il y avait 178 entreprises dans ce palmarès-là. L'entreprise numéro 6, c'est la SAC. La 8, c'est Amazon. Puis la 10, c'est Nespresso, là, juste pour te donner une idée. Donc, on compétitionnait contre des mastodontes. Et Cookit, puis ils ont une méthodologie qui ont demandé à 400 personnes qui ont utilisé chaque entreprise. Puis Cookit a eu une note de satisfaction de à peu près 90%, ce qui est vraiment immense. Là, parce que faire un meal kit, c'est pas du rocket science, sure, là. Mais c'est quand même environ 42 ingrédients différents dans une boîte. On livre du périssable aux quatre coins du Québec, de l'Ontario, les maritimes. Puis c'est dans l'alimentation. Et l'alimentation est une industrie qui est pas très innovante. C'est pendant longtemps pour nos fournisseurs. Il faut envoyer encore nos commandes par fax. Puis bataille, on est rendu en 2018. Là, pouvez-vous, s'il vous plaît, comme découvrir le courriel, là, mettons, là? Mais c'est ça. Fait que oui, financement, nouveaux marchés, nouveaux produits, diversifier l'offre, toujours dans le but de simplifier la vie de nos consommateurs. Fait que ouais, c'est ça.
Un bel avenir devant vous. Puis garde, Judith, je terminerai avec des petites questions personnelles. J'aime toujours ça poser ces questions-là aux gens qu'on reçoit sur Hypercroissance. J'aime beaucoup la lecture, les livres d'affaires. Est-ce que tu lis un peu de ton côté? Est-ce que tu as eu le temps, peut-être dans les derniers mois, de regarder quelques bouquins qui ont capté ton attention?
Pas bien gros. tu sais, mettons, moi, un de mes livres qui a vraiment révolutionné ma vie, puis je l'ai dit en amont, là, je l'ai dit tantôt, là, c'est vraiment Le Secret. Et puis, tu sais, comme, je sais qu'il y a bien du monde qui trouve que c'est un livre à l'eau de rose, puis que ça répète tout le temps la même affaire, mais pour moi, ça a vraiment été un déclic dans ma vie de me dire que la vie que je projetais, la vie que je voulais m'imaginer, si je commençais à la mettre en action, ça allait arriver. Puis après ça, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, mettons, jamais il y a 10 ans, j'aurais eu l'ambition d'être où ce que je suis aujourd'hui. Là, tu sais, dans le sens que je viens pas, c'est pas mon background familial, mes amis, tu sais, je viens de Longueuil, une petite maison bien ordinaire. Fait que, tu sais, d'avoir l'ambition que j'ai aujourd'hui, c'est un peu comme sorti out of nowhere. Là. Mais, ouais. Quand j'ai compris, en fait, qu'il y avait bien du monde qui rêvait, qui, peu importe, tu sais, mais ça restait dans leur tête. Puis, tu sais, maintenant, je trouve ça fou. OK. Là, ça a l'air complexe, si je vais te dire, mais maintenant, je trouve ça fou de voir où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Moi, je suis pas une superwoman. Je suis pas la personne la plus intelligente dans la pièce. Je suis pas une workaholic. Je travaille pas 800 heures par semaine. Je trouve qu'on glorifie beaucoup l'entrepreneur. Puis c'est bien correct, là, parce que j'en bénéficie, puis tant mieux. Mais je trouve qu'on glorifie beaucoup l'entrepreneur avec le mythe de l'entrepreneur et tout. Mais, tu sais, je vous rassure, là, je dis absolument rien de particulier. Mes amis que j'ai depuis toujours, ils pensent pas que je suis la fille la plus intelligente de la planète Terre. Ils ne vous voient pas. Tu sais, puis ce qui explique qu'aujourd'hui, je suis en train de te jaser, puis j'ai la chance d'être invitée par toi, c'est que, ben un jour, j'ai comme arrêté de me dire « Ah, ça serait cool de le faire », puis je l'ai juste fait. Puis c'est la seule différence entre moi puis bien du monde. Puis, tu sais, mettons, là, si dans vie, tu décides d'être violoniste de calibre international, ben, tu sais, t'as comme l'impression que la compétition est féroce pis tout, là, mais tu sais, t'en connais-tu bien du monde, qui ont décidé d'être violoniste à l'international dans ta vie? non. Tu sais, ou peut-être plus des entrepreneurs aujourd'hui, mais admettons, il y a 10 ans, du monde qui voulait être entrepreneur puis des fondateurs de start-up. En connaissais-tu tant que ça dans ton réseau avant que ça devienne, commence à devenir ton focus? Probablement que non, tu sais. Fait que la compétition, elle est très pas forte. Spécialement pour une femme, là. C'est une belle opportunité qu'on a ces temps-ci, je trouve. Parce que justement, ça nous laisse beaucoup d'airtime. Tu sais, on en veut plus de diversité. Même toi, tu me disais que tu essayais de rejoindre tes ratios 50-50, tu sais. Fait que ça fait en sorte que ça nous laisse plein de belles opportunités. Fait que c'est ça. Moi, je dis tout le temps à tous les jeunes entrepreneurs. Tu sais, mettons, je suis allée, tu sais, je vais souvent avec, mettons, au parcours Rémi Marco puis des trucs comme ça. Puis à HEC, il y a un DESF de création d'entreprise, OK? Il y a moins de 15% des gens qui font ce DESS-là, qui d'ici 10 ans auront lancé une entreprise. Tu peux-tu croire? Des gens qui ont fait des études post-universitaires pour se lancer en business, puis ils se lancent même pas en business. Moi, je comprends pas. Je comprends, là, parce que j'ai passé par beaucoup de doutes, mais je comprends pas.
Non, c'est parce qu'à un certain point, à un moment donné, si tu fais juste y penser, ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire, plus que tu y penses, plus que tu vois des erreurs, des défauts, des enjeux qui vont arriver. Moi, je me rappelle au début, quand j'avais lancé mon organisation il y a 8 ans de ça, mon premier client m'a dit « Le plus gros avantage que tu as en ce moment, c'est ton inexpérience. » Et ça l'a marqué mon esprit parce que c'est vrai. Parce que quand tu n'as pas d'expérience encore, tu sais pas ce qui va t'arriver. Quand tu as beaucoup d'expérience, tu sais un peu ce qui va t'arriver puis ça va peut-être te faire peur. Mais à un certain point, quand tu sais pas vraiment ce qui va arriver, tu te lances. Puis après, ben tu deals avec les enjeux un après l'autre. Puis c'est comme ça que tu avances dans ton parcours. Puis ce que tu dis, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui y pensent, peu de gens qui agissent. Mais si c'était l'inverse, c'est là que tu aurais beaucoup plus d'entreprises. Puis tu aurais sûrement peut-être même une société encore plus riche que ce qu'on a en ce moment.
Ben définitivement. Il y aurait définitivement plus de compétition. Je serais pas en train de faire des podcasts tous les deux jours. Ça, c'est sûr.
Je terminerai, Judith, avec une petite question. J'aimerais ça savoir, est-ce que tu as des routines spécifiques? Est-ce que toi, tu as besoin de suivre certaines routines pour être performante dans ce que tu fais au day-to-day?
Non, vraiment pas. Tu vois, moi, mon
ah, outil, ouais.
Ouais. Moi, j'ai lu Tools of Titans, là, puis je trouvais ça vraiment intéressant, mais je me reconnaissais pas dans rien de tout ça. Non, je me lève pas avant 6h30. Le monde n'appartient pas nécessairement juste à ceux qui se lèvent tôt. Non, puis tu sais, je trouve qu'il y a des bonnes techniques à travers tout ça. Tu sais, mettons pendant 3-4 ans là, que dans le pic de Cookit, tout ce qui est genre, c'est où ce que c'était le plus stressant, où ce qu'on se demandait quasiment tous les jours si on allait survivre. Tu sais, je faisais pas de sport, j'avais peut-être dû en faire plus effectivement, mais tu sais, j'avais des habitudes de vie super malsaines. Je consommais beaucoup trop d'alcool. Tu sais, fait non. Puis écoute, j'aime vraiment ça le dire en plus parce que je trouve que justement quand pour le commun des mortels qui a pas envie de se lever, qui est pas un char de lui-même puis qui va pas courir avec ses Converse, préférence occupation double, là. Mais t'es pas obligé d'avoir de la discipline comme ça pour réussir. Là, t'sais, oui, c'est sûr que ça aide, là, mais c'est sûr certain quand je parlais de la glorification de l'entrepreneur, hein, que genre, tu as l'impression que tout le monde travaille 24 heures sur 24. Qui c'est qui a envie de faire ça, t'sais? Faut que tu le fasses un certain temps, là, je suis bien d'accord. Là, t'sais, quand je te disais que j'étais toute seule, on était 3 employés pour Cookit, là, évidemment, là, on passait le balai, puis on vidait les poubelles, puis on faisait les livraisons, puis on préparait les commandes, puis on shootait les photos, même si c'était dégueulasse, là. Mais c'est pas ça nécessairement l'entrepreneuriat. Puis moi, justement, j'en ai eu une idée de podcast que j'ai toujours pas faite encore.
Oh.
Mais c'est justement d'inviter différentes personnes pour savoir comment ils font, eux autres. T'sais, parce que le succès n'a pas une... Il n'y a pas une formule unique. Puis moi, j'ai été capable d'avoir... T'sais, on a 3 enfants, t'sais, d'avoir des enfants à travers ça, de maintenir une vie sociale, de maintenir des amis, de partir en vacances. T'sais, fait que non, j'ai pas de routine spéciale.
Intéressant, mais tu vois, quand je pose cette question-là, j'ai 50% de gens qui me disent qu'ils ont une routine militaire, puis l'autre 50% qui me disent, moi, les routines, je connais pas ça. Fait que c'est intéressant, c'est pas tout le monde, comme tu le dis, qui sont très à la minute près. Il y a une personne sur deux qui me disent, non, j'ai aucune routine. Fait que c'est un mythe encore, comme tu le disais, qu'on pense qu'il faut se relever à 4 heures, puis ainsi de suite, blablabla. Il y en a que ça fonctionne. Moi, je suis comme ça, puis j'aime cette approche-là, mais c'est pas de même pour tout le monde, puis je pense que c'est important que les gens comprennent ça. T'es pas obligé de faire ça pour avoir du succès. T'en es le meilleur exemple.
Ben, c'est pas intéressant. je vais updater mon data par rapport à ça grâce à ce que tu m'as dit.
Bon, parfait. Au moins, ça t'aura appris ça, c'est bien. Ben, Judith, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui. Je pense que pour les gens qui ne connaissent pas encore Cookit, allez voir leur site web, leur offre de service est très, très bien définie, très intéressante. Je pense que dans un temps de confinement, encore une fois, c'est encore plus d'actualité de travailler ou plutôt de commander du prêt-à-cuisiner. Puis, merci encore une fois. Et ben, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Ça me fait toujours un énorme plaisir de recevoir des femmes entrepreneurs sur Hypercroissance. Je fais d'ailleurs un appel à l'audience aujourd'hui. Si vous connaissez des femmes entrepreneurs qui sont passées en hypercroissance, je vous invite à venir discuter directement avec moi sur LinkedIn. Mon objectif en 2021 est d'amener autant d'hommes que de femmes sur le podcast, sachant que le succès des femmes entrepreneurs au Québec est très en vue et mérite d'être mis de l'avant. Également, de lancer nos nouveaux médias sociaux pour hypercroissance en créant des pages totalement séparées à J7 Media. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.